voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
100, 2, 1.
C'est tout un show de télé puis, qu'on voit là présentement avec la couverture sur l'ouragan Milton. On se souvient, il y a de ça quelques années, de l'ouragan Katrina qui avait tué plus de 1800 personnes en Nouvelle-Orléans. Ça avait inondé 80 % du territoire. Ça avait été une catastrophe. Puis pendant des années, puis même je vous dirais qu'en 2024, il y a encore des résidences, comme Pascal le disait tout à l'heure, qui n'ont pas été rebâties, des quartiers qui sont totalement laissés à l'abandon, des gens qui n'ont pas été aidés pantoute. On ne souhaite pas ça pour la Floride, bien entendu. 5 millions de personnes qui ont ordre d'évacuer la Floride. Couche-Tard, qui a à peu près 1500 magasins dans ce secteur-là, il manque tout d'essence. Ces gens-là vont se retrouver sur le bord de l'autoroute à pied, avec des petites valises, avec leur petit bonheur pour essayer de monter un peu plus vers le nord. C'est une catastrophe, Denis, ce qui arrive là. Puis j'espère juste que c'est pas un show de télé puis que véritablement, on va avoir sauvé des vies avec les décisions qu'on prend là actuellement.
Écoute, c'est rare qu'on a des déclarations qui sont aussi claires et nettes de la part des élus de dire « si vous restez sur place, vous allez mourir.
Ouais. »
Tu sais, habituellement, on y va tout le temps en contournant, puis en louvoyant, puis en faisant attention. C'est rare qu'on ait autant directif. Puis je sais qu'il y a bien du monde qui ont fait la météo à TV au Québec, là, mais il y a personne qui se l'est joué Moïse en levant les bras dans les airs. Puis t'as une simulation d'inondation en arrière de toi qui montre la catastrophe que ça pourrait devenir dans les 24 oui. ou les 48 prochaines heures. Puis tu sais, pour quelqu'un qui aurait le réflexe de dire « moi, je suis chez nous, puis je reste chez nous », tu regardes la TV, puis tu vois ça, puis tu fais « ouais, il est peut-être pas trop tard pour embarquer dans mon char, puis aller me chercher une slush en même temps que le reste de gaz qu'il y a du côté des Couche-Tard. »
Écoute, t'sais. Peut-être que je suis mal fait, là, mais je pense que mon premier réflexe, ce serait de rester à la maison en voyant ce qui se passe actuellement un peu. Là. Tout le monde manque d'essence, les véhicules restent sur l'autoroute, c'est de la grosse misère, puis là, tu t'en vas à pied. Je me dis « hey, on déménage toute la gang dans le sous-sol, puis on attend que ça passe, ça va être un 48 heures à attendre. »
Mais t'as même pas
attendre.
48 heures, ça, c'est sous-estimé, là, comment ça va prendre de temps pour se relever de ça. Mais t'as même pas une canne de poids de lousse à la maison.
Ah,
on a déjà parlé,
pour
toi et moi, de la préparation. Puis là, tu te dis, toute la famille, on va aller au sol.
J'étais un survivaliste dans l'âme.
Ben oui, après 3-4 jours, on commence à manger les plus faibles.
C'est ça, j'allais dire. Ils vont se manger. Ils ont une animalerie complète à la maison.
Oui.
Je comprends qu'ils vont pouvoir faire du michoui pendant un bout.
On va commencer par le lézard. Après ça, mes chats, pas de poils. Puis après ça, le chien. Là.
Puis après?
Ben, les plus petits.
T'es gars.
Le plus faible, c'est moi qui vais y passer, clairement. Là.
Toi, dans ton cas, ouais, oui. Une petite grippe d'homme. Hein?
Ouais, 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 elle traîne. Ouais.
J'étais surpris tantôt, le regard vitreux, à regarder où il n'y a absolument rien pendant 3-4 secondes avec un œil fermé et un œil vert.
Ouais.
Denis, ça va?
Je révisais mes choses à faire, puis tu sais, quand t'es magané un peu, puis que les choses s'accumulent tranquillement, je suis un peu là. Bon, on est loin de l'ouragan quand même, mais tu disais les gens qui restent là-bas, j'avais pogné un documentaire là-dessus, tu sais, qui posait la question de base. Mais oui, mais il y a une catastrophe qui s'en vient. Pourquoi le monde reste chez eux? Puis t'avais des psychiatres puis des psychologues qui expliquaient que c'est ton instinct de survie qui te fait prendre de mauvaises décisions. Puis je pense que je suis un peu comme ça, personnellement. L'endroit où je me sens le plus en sécurité dans le monde, c'est chez nous, dans mes affaires. C'est ma forteresse de solitude. C'est l'endroit où, dans ma tête, je suis à l'abri de tout. Fait que probablement que je ferais partie des derniers à quitter à cause de ça, mais c'est vraiment notre instinct de survie qui est fort. C'est pas parce qu'il est faible que tu restes là. Ton instinct de survie est fort, mais il te fait prendre de mauvaises décisions. Parce que ta certitude depuis que t'es né, c'est que c'est chez vous que t'es en sécurité, puis c'est chez vous que t'es isolé de tout ce qui peut arriver ailleurs dans l'univers.
Moi, t'sais. Ça vient gratter le jugement. Puis, tu sais, je l'ai pas nécessairement facile, surtout quand on parle de tout ce qui est psychologique ou psychiatrique là-dedans, ou ton vécu, ou de quelle famille tu viens. Il est pas facile. Mais ça, pour moi, ça vient me gratter le jugement. Tu sais, même le sous-sol, il y a un auditeur qui dit « Mais là, Marceau, avec 15 pieds d'eau, le sous-sol, non, vous allez mourir noyé avant. » Mais
il y a raison, ça dépend où tu es. Si tu es sur le bord de la côte, bien entendu que tu vas être inondé. Mais si tu es dans un building de, je sais pas moi, 30 étages, tu peux être là, mais tu vas être dans le trouble pendant une couple de jours parce qu'il n'y aura pas un show autour de toi.
Pour moi, c'est une mauvaise évaluation de ses compétences personnelles.
Oui.
oui. au même au détriment du reste, parce que je suis à la maison, je suis comme, hey, je tombe un peu dans le gratouillage du jugement de dire, ben voyons donc.
Tu sais, je l'ai vécu à très petite échelle, parce que j'ai déjà été évacué sur le bord d'une rivière ici à Beauport à une ou deux reprises, puis j'ai le bon réflexe pour mes proches.
C'est ça.
Tu sais, la journée où on annonçait que la Montmorency allait déborder, j'ai pas attendu. J'ai pris ma blonde, j'ai pris mon gars, on n'avait rien qu'un dans ce temps-là, puis tout de suite, j'ai placé ça. En fait, j'ai fait ce que je fais tout le temps, j'ai appelé Véro, puis ils sont partis chez Véro le matin même, il n'y avait rien encore. Mm. Mais moi, je suis resté. Puis je suis resté le plus longtemps que j'ai pu. Puis je suis parti sur une pelle mécanique avec ma poche de hockey puis mon chien parce que c'était la seule façon de sortir quand je suis parti. Je suis resté...
Tu joues même pas au hockey?
Ouais, ben c'est ça. J'ai mis du linge dedans, tu vois bien. Mais non, c'est ça. C'est, c'est effectivement ton jugement qui joue contre toi. Puis là, il y a des... Mais on est dans... c'est fascinant quand même de voir que dans des circonstances extrêmes comme celle-là, il y a des gens qui décident de ne pas bouger. Puis il y a un mélange de tout là-dedans. Il y a des gens qui disent « Ah, les médias, hein, ils exagèrent tout le temps, puis ils exagèrent encore ce coup-là. Puis hey, c'est moi qui vais rire quand je vais être sur le balcon puis je vais voir tout le monde revenir. » Tu sais, il y a un peu de ça.
Puis, mais ces gens-là, mettons, première étape de réponse, moi, là-dedans, là, c'est « OK, mais si. »
Ouais.
Fait que toi, t'as pris la chance de. Continue.
Ben, c'est parce que mettons que t'as tort, là. Tu vas flotter avec ton nom d'écrit sur le bras, là. Il n'y a pas personne qui va rire de toi, il va être trop tard.
Puis au pire, tu seras allé ailleurs. Ouais. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas de solution. Il y a des gens probablement qui restent parce qu'ils n'ont aucun endroit où aller.
Mais Pascal, je comprends que toi, tu serais parti à partir du moment où les autorités te disent quittez, montez vers le nord, sauvez-vous parce que ça s'en vient. Je comprends que toi, tu serais parti tout de suite. Mais pour les retardataires, peut-être parce qu'on a vu trop de films post-apocalyptiques, mais les gens sur l'autoroute, là, il va y avoir des morts, il va y avoir des bagarres. C'est sûr que ça va se taper sur la gueule. Là.
Ce ne sera pas mieux sur place non plus.
Non, ça ne sera pas mieux sur place.
Moi, je ne prendrais pas de risque. Puis je me dis, gars, au pire, j'aurais évacué pour rien. Mais pourquoi je joue avec ça? Je ne sais pas. En fait, ça ne fait pas partie de moi.
Il y a peut-être des gens qui se disent « j'ai manqué ma fenêtre d'opportunité aussi », exactement pour les raisons que tu viens d'expliquer. Mm-hmm. Là, c'est le free-for-all, il manque de gaz partout.
Mais ça,
j'aurais
ceux qui ont hésité.
Quitter il y a une semaine.
C'est ceux qui ont hésité en se disant ah, « ça doit pas être si pire ».
Peut-être que rendu là, il y a des gens qui se disent « bon, ben tabarnouche, je vais monter sur le toit de ma maison en attendant que ça finisse ». Puis c'est malheureux, je veux dire, on va être dans la tragédie humaine probablement pour les prochaines semaines.
Comme si on n'avait pas assez dans le monde.
Oui, parce qu'on voit ce qui se prépare puis ce qui se trame sur les radars, puis on nous vend encore ça comme possiblement la pire catastrophe que la Floride va avoir reçue dans les 100 dernières années.
Il y aura une signature. Geneviève Guilbeault qui a annoncé qu'elle va signer l'entente avec le tramway et tout ça pour le tramway de Québec. On a su que ce ne serait pas la Caisse de dépôt et de placement infra qui aurait la gestion de ce tramway-là. Ça va être carrément le RTC qui est incapable de se gérer depuis des années, qui est dans des déficits par-dessus des déficits. C'est une bonne nouvelle, ça, pour les citoyens de Québec, alors qu'on sait que le 40 % que le gouvernement fédéral pourrait être donné pour le tramway et pas certain en raison du fait que plane des élections fédérales et Pierre Poilievre l'a bel et bien dit, il ne mettrait pas une scène dans le tramway. On ne sait pas trop comment il va coûter ce tramway-là. Ça va-t-il être un 5 millions ou ça va aller un 5 milliards ou ça va aller jusqu'à 10 milliards. Puis là, ben, elle nous apprend que ça va être le RTC qui va avoir la gestion du tramway. Il semble qu'on a hâte d'avoir des bonnes nouvelles.
Bien, c'est une bonne nouvelle pour la Caisse de dépôt infra qui a appris à la dure qu'ils n'avaient pas l'expertise pour opérer ce genre de système-là. Donc, bravo à eux. C'est une décision d'affaires avisée. Maintenant, pour la suite des choses, le RTC peine à articuler le réseau comme les résidents de la grande région de Québec le souhaite depuis des années et des années. Les priorités, ils n'ont pas changé. Moi, ça fait 25 ans que je suis à Québec. Ça fait 25 ans que j'entends les mêmes affaires. C'est un réseau qui ne va pas assez loin. C'est un réseau où il n'y a pas assez de fréquence. C'est un réseau où, dans les heures de pointe, dans des voies réservées, il y a des autobus vides ou à moitié vides qui font en sorte que le trafic se remplit. Donc, plein de symptômes d'un réseau qui est mal articulé puis qui n'est pas collé sur la réalité des gens. Est-ce qu'ils sont améliorés dans les 25 dernières années? Assurément, incontestablement. Est-ce qu'ils sont suffisamment améliorés pour faire en sorte qu'il y ait un boom vers l'autobus? À date, pas encore. Maintenant, le tramway. Au moins, on le passe sur le bon sens, à mon humble avis. Je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes nord-sud que de problèmes est-ouest à Québec. Je pense que le gouvernement a remis l'axe dans le bon sens. Le RTC, est-ce que c'est une solution? Comment un problème peut devenir une solution? À un moment donné, dans le dossier du nouvel amphithéâtre, on est passé de... Moi, pas question qu'on aperçoit avec Exposité, là, parce qu'Exposité, c'est compliqué. Là, t'sais. On va mettre ça ailleurs. On est passé de ça à... Il y a juste Exposité qui peut opérer ça. Il y a juste là qu'on peut le mettre. Et puis, tu sais, un problème devient une solution. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui a changé. Comment le RTC va opérer le tramway? Comment on va gérer ça quand il y aura des problèmes? Combien ça va nous coûter en réalité d'entretien? Tu sais, on voit les mésaventures du REM du côté de Montréal. Tu sais, la première année, ça va être une catastrophe. Probablement, ouais. Là, je veux dire, c'est du rodage, c'est compliqué.
Parce que pour le REM, c'est la Caisse des dépôts et de placement qui fait l'exploitation, ouais. Mais ce ne sera pas le cas pour ce qui est du tramway. Mm-hmm. Ça, c'est ce qu'a dit Mme Guilbeault. Ouais. C'est Joël Arsenault qui posait la question. Joël Arsenault, c'est le péquiste. Et on dit que sur l'enjeu de l'importance qui va être accordée à la rentabilité dans le projet, la Geneviève Guilbeault a dit qu'on va redonner l'exploitation à la Société de transport de Québec, qui vraisemblablement aura probablement des revenus qui devront gérer l'exploitation. Et là, Joël Arsenault dit, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait qu'à Montréal, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Infra, a siphonné tous les revenus des autres sociétés et va chercher des redevances aussi aux municipalités pour déclarer un certain profit. À Québec, ce qu'on veut, c'est que le projet soit équilibré et que ce soit les citoyens qui bénéficient d'un service. Ouais. Mais ce ne sera pas plus rentable.
Je suis pas sûr que le citoyen revoie la couleur de son argent. Mais la Caisse de dépôt et de placement, moi, je suis pas surpris. Je veux dire, ils n'ont pas aimé ça, là, gérer le problème à Montréal. Ils se sont fait reprocher ça de tous bords, tous côtés. Revivre l'expérience à Québec dans un climat où... Tu sais, le premier chiffre qui saute aux yeux quand tu t'embarques ici, c'est que le taux d'acceptation du tramway, il a baissé. Il n'a pas monté, il a baissé. Et la première année qu'on va l'opérer, à chaque fois qu'il ne marchera pas, à chaque fois qu'il va avoir un problème, à chaque fois qu'il va avoir une mésaventure reliée, par exemple, à une tempête de neige, au mauvais temps, les gens vont devenir cyniques très rapidement. Les gens qui vont être à la tête de l'opération du tramway, la première année, vont trouver ça rough. Ça va être dur de passer à travers. Puis après ça, on va parler de coûts. Après ça, on va parler d'entretien. Après ça, on va parler de dépenses supplémentaires. Bonne chance au RTC. Bonne chance à la Ville de Québec. Ce sera pas facile.
Bonne chance aux gens du marketing qui vont être scrutés à la loupe pour chaque dollar investi pour convaincre ces gens-là qui n'étaient déjà pas convaincus d'essayer d'être convaincus que le tramway, c'est le fun.
Mettons qu'avant que le tramway décolle, on est à 80 % de taux d'acceptation à Québec. On peut baisser à 70 % pendant la première année d'opération du tramway parce qu'il y a plein de ratés. Tu peux même descendre à 60 %. Tu vas être encore capable de te promener en te disant « Écoutez, c'est pas facile, mais on a encore une majorité de gens qui croient au projet. On continue de travailler fort. » Il n'y a même pas une personne sur deux. On n'a même pas réussi à convaincre une personne sur deux à Québec de la nécessité d'un moyen de transport comme celui-là, alors qu'on est toutes pognées dans le trafic et qu'on n'a pas vraiment de solution.
Et la façon de faire, c'est de... comment dire, l'obliger. Fait qu'on est en train d'obliger les gens à se le rentrer dans la gorge.
Vous voulez pas, on le fait pareil.
Imagine, ben oui, rappelle-toi les montants là, dépensés pour des pubs radio, même dans des radios qui s'opposaient complètement au dit projet.
Ouais, avec Tony Tramway. Arrête là. Ça a gagné des trophées. Ça a l'air, c'était bon. Hein. Ils n'ont pas convaincu une maudite personne, mais ça a gagné des trophées. Ça a l'air, c'était une Christie bonne pub. Tony Tramway. Quelle cochonnerie. Ils donnent des trophées à une pub qui n'a pas convaincu une seule personne à Québec que le tramway, ça avait de l'allure.
Mais ils ont pris le cash à ces gens-là pour la payer.
McDo, à chaque fois qu'ils font une pub, ils envoient au moins une personne au McDo. On n'a pas convaincu un chat à
là,
Québec.
Peut-être que les auditeurs auront la réponse, parce que visiblement, moi, j'ai pas cette réponse ici, là, au 418-971-1021, mais l'argent que les conservateurs nous donneront pas, c'est-à-dire 40 % du projet. Bon, si on se dit 5 %, ça veut dire que c'est 2 milliards de dollars. Qu'on n'aura pas, on le prend où, ce 2 milliards-là?
Est-ce qu'on se retrouve dans un scénario semblable à celui du nouvel amphithéâtre où on va se dire on le fait pareil puis on éponge la facture?
C'est pas la ville qui peut éponger ça, Denis.
Là, on n'est pas à 400 millions. Là, on est à des milliards et des milliards de dollars. Puis oui, t'as raison. Maintenant, est-ce que dans une négociation avec le... Moi, je vois deux scénarios au niveau du fédéral. Je vois une possibilité de négociation si on se lance sérieusement dans la construction d'un troisième lien où on va essayer de faire du donnant-donnant des deux bords. On va faire avancer le troisième lien. Tu vas pouvoir donner de l'argent. Tout le monde va bien paraître, mais il va falloir que tu en donnes également du côté du tramway. Tu vas me dire que c'est pas très conservateur comme façon de faire. Moi, je vais te dire que c'est très gouvernemental comme façon de faire. L'autre chose, c'est un scénario qu'on entend souvent. Écoutez, nous autres, On voulait pas le mettre, l'argent, mais vous savez, le gouvernement précédent nous force la main. C'est des sommes qui sont déjà rentrées dans les investissements. On peut pas faire grand-chose, mais blâmer Trudeau. Maudit Trudeau à marde. Je sens qu'il y aura une échappatoire d'une façon ou d'une autre. C'est pas pour rien qu'on veut décider de creuser là, et commencer le projet pour forcer la main du fédéral si jamais le prochain gouvernement est un gouvernement conservateur.
Excuse-moi, parenthèse, il y a des Tony fâchés. Parce que c'est pas Tony Tramway, c'est Tom Tramway.
Fait que
là, il y a des Tom qui vont être fâchés.
Désolé à tous les Tony. Là. On a un très sympathique qui travaille ici d'ailleurs. Donc, désolé aux Tony. Vous êtes crédibles. Tom Tramway ne l'est pas, mais tous les Tony sont crédibles.
OK, autre nouvelle qui est tombée à Québec hier. C'est fini les corridors vélo-cité. Quelle bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on remplace ça par des corridors viva-cité.
Hey, on a un problème, on va le changer de nom. J'ai un drain qui déborde, j'appelle ça une piscine.
Ouais, alors, il a dit que c'était pas un...
C'est pas un problème, c'était une solution.
Le même marchand, il a dit que c'était pas un branding. C'est juste parce qu'il y a pas juste des vélos qui passent là-dessus. Là, hein? Donc, il fallait absolument changer de nom.
C'est pas une toilette qui déborde, c'est mon développement de compost.
Hey, mais imaginez le temps perdu à changer de nom pour un projet de même pendant qu'on est tellement occupé à d'autres choses. Ça, puis les réfifi à l'hôtel de ville, là, je me demande combien d'heures, si on enlève tout ça, on gagne pour des projets qui ont un intérêt sincère pour la municipalité. La ville, pardon, je ne veux pas insulter, parce que mais je pense que c'était comme un lapsus de « on gère ça en municipalité ».
Ouais, puis ça collera pas de toute façon. Viva Cité, ça fait Elvis à Vegas.
peut-être pour le tourisme.
Ça ne marchera pas, puis ça va rester des pistes cyclables. C'est des pistes cyclables. On comprend c'est quoi une piste cyclable. On n'est pas nono, là. On le sait, là, que... Mon oncle Antoine avec son triporteur qui est plus large qu'un pick-up, il passe là-dessus, on le sait. Les trottinettes électriques qui roulent à 250 km/h, on le sait qu'ils sont là-dessus.
Les motos électriques.
Les pauvres mamans qui essayent de rouler avec le poussette sont là-dessus aussi. On sait c'est quoi une piste cyclable, bout de vierge. Quand même, tu changes de nom, tu changes pas sa réalité, tu changes pas sa vocation, tu changes pas la dépense, tu changes pas l'investissement. Cette manie-là de dire « le nom marche pas, on va changer le nom ». Oui, mais ça reste pareil. On n'est pas niaiseux. On n'est pas niaiseux à ce point-là.
Puis des cyclables, c'est pour les bicyclettes puis les cyclomoteurs. Je pense que ça rentrait déjà dedans.
Ben oui, mais là, c'est quoi? C'est les corridors vivacité.
Les corridors vivacité.
Moi, c'est quoi? J'avais vu cette nouvelle-là puis j'en avais même pas parlé parce que je me suis dit, honnêtement, ça n'en est pas une.
Mais en même temps...
Denis, si tu changes de nom, je ne vais pas en parler, tu comprends?
Ben, tu n'auras pas le choix, là.
Ben, ça ne sera pas de mes affaires.
Quand ça va s'appeler Tremblay dans le retour, tu n'auras comme pas le choix de l'aviser.
Mais mettons, Denis devient Denise.
Ouais.
T'sais,
ça
pas
aussi,
mes
c'est
affaires.
Dur à ne pas aviser dans une certaine mesure, là. T'sais, maintenant, il faut que j'en parle.
C'est pas de nos affaires.
Mais tu aurais le droit, là.
Ben oui, écoute,
on est là pour toi.
Je le sens pas beaucoup, là, mais si à un moment donné, je le sens, je vais vous en parler, là.
OK. Bruno Mascotte qui est sorti dans l'actualité, a accordé des entrevues à gauche et à droite. Et on est revenu avec le fameux projet du troisième lien entre 8 et 10 milliards de dollars qui coûterait, selon l'ingénieur Bruno Mascotte. Et on sait toujours pas à quel endroit il ferait. Quand même particulier de donner des chiffres comme ça puis de pas savoir à quel endroit on le bâtirait.
En fait, de ce que je comprends, c'est qu'on prend le coût estimé du pont de l'île d'Orléans puis on se dit ça va être plus gros que ça. Fuck! Ça va coûter une fortune!
Oui, mais tu peux pas faire ça, Denis!
Quoi?
Parce que ça peut pas... Mettons que tu le bâtis à l'île d'Orléans,
ouais.
Ton chiffre fonctionne.
Déjà, il va coûter plus cher que prévu, le pont de l'île d'Orléans. Là.
Ben là, ils ont dit 2,7 milliards.
Ouais.
On les aime, les gens de l'île d'Orléans, mais je trouve qu'avec la faible population qu'ils ont, je trouve que c'est cher payé.
D'autant plus que Sainte-Pétronille est en train d'imploser depuis un an. Là,
ça serait moins pire.
Fait que faisons un petit bout jusqu'à l'autre bord, ça serait intéressant. Mais, tu sais, c'est un ingénieur, puis on lui a souvent jasé, M. Mascotte,
ouais.
C'est un homme extrêmement brillant, mais si tu le fais au centre-ville de Québec, les coûts sont pas pareils, là.
Mais penses-tu vraiment...
Si tu le fais, admettons, à hauteur des battures de Beauport, parce que ça a déjà été pensé, les coûts sont pas pareils. Si tu le fais à l'ouest du pont Pierre-Laporte, le coût est pas pareil.
Mais penses-tu vraiment... J'ai deux questions pour toi. La première, penses-tu vraiment qu'on peut s'en tirer en bas de 10 milliards au Québec de la façon qu'on étire les projets inutilement, même si tu prends le chemin le plus court, même si tu le fais de la façon le plus utilitaire possible, en bas de 10 milliards, je vois ça comme une impossibilité. Puis l'autre question, si on en a besoin, là, on le fait. Quand on faisait les ponts dans le temps, là, ça coûtait une fortune, puis on les faisait. Pourquoi?
Ouais. À Montréal, ça
parce qu'on en avait besoin, c'est ça. Tu sais, on a la manie de tout le temps amener dans l'espace public, puis il y a quelque chose de sain là-dedans, débattre des dépenses et ainsi de suite. Mais maintenant, quand il faut que tu fasses des affaires, t'as pas le choix. Quand il faut que tu répares les égouts en dessous de l'asphalte, ça coûte une fortune, mais t'as pas le choix. C'est des choses qu'il faut que tu fasses. Si ça prend un tramway, ben faites-les. Si ça prend un troisième lien, mais faites-les, puis arrêtez de nous écœurer sur le combien ça coûte. Coupez ailleurs. Ça fait des années qu'on vous le dit, qu'on paye trop pour tout, tout le temps, pour rien. Focusser là-dessus, puis il faut que ça devienne des projets de société, puis il faut que ça devienne des objectifs de dire, ben ça, on le fait. Présentement, on a un gouvernement qui a pas de l'air très motivé à accélérer les projets, que ce soit un ou l'autre en passant. Là. Je trouve qu'on niaise beaucoup, là, qu'on tergiverse beaucoup. Là. Tramway, troisième lien. J'ai encore un doute dans mon esprit que je verrai pas ça de mon vivant, ni un ni l'autre pour la ville de Québec.
T'as-tu vu les corridors Vélocité à Québec?
Viva!
Oui, mais il s'appelait Vélocité. Est-ce que tu les as vus? Parce que le changement de branding, bon, ça a des coûts. Là,
on retourne dans les corridors.
Parce qu'il y a un auditeur qui me dit, c'est quoi le coût de ce plan-là avec Vivocité? Mais Vélocité s'est installé depuis des années. Est-ce que tu les as vus, ces fameux couloirs-là? Es-tu capable de me décrire visuellement? Il y a des poteaux de métal.
Oui.
Ou des poteaux de plastique, ça dépend où tu es.
Ouais, là, ils vont remettre. Pour moi, ils vont y remettre en plastique, là, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, là.
Ouais. T'as un peu de peinture. Ouais, c'était sur la piste cyclable.
Ben, c'est à côté, pas loin, là, en pleine nuit, ouais.
Il y a donc, il y a des poteaux métal, plastique, il y a de la peinture. Mm-hmm. Par ça, j'oublie-tu quelque chose?
Ben, faut l'entretenir.
Ouais, mais le coût d'entretien n'est pas inclus là-dedans.
OK.
Juste l'investissement pour chaque kilomètre. Puis je répète, là, des poteaux, de la peinture.
Oui.
C'est tout. On n'a pas construit de trottoir. Là. C'est 260 000 $ que ça coûte chaque kilomètre depuis que ça a été créé.
Tout coûte cher au Québec. Tout coûte cher au Québec. Quand tu veux faire avancer les projets, tu sais que ça va coûter une fortune. Tu sais que ça va coûter plus cher qu'ailleurs. On pousse les immigrants dehors au lieu de les acheter de cheap labor pour qu'ils bâtissent nos infrastructures. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? On les laisse même pas ramasser nos fraises, mon Dieu. Tout coûte plus cher au Québec. Et plein de firmes et d'entreprises voient ces gros projets-là arriver, les petits comme les gros, puis ils se frottent les mains. Ils disent, hey, on va ruiner le gouvernement, mais on va se faire de l'argent à tabarnouche.
All right. Dernier sujet, mon ami.
All right.
Denis...
C'est pas all right.
C'est pas. Il était,
non, il y a
il
rien de all right.
Denis Coderre. Il n'est pas aussi populaire qu'il pensait l'être.
Non.
All right.
All right.
All right.
Y a-tu son chiffre?
Ben là, ils ont eu un sondage qui vient d'être rendu public pour ce qui est des intentions de vote pour un futur prochain chef du Parti libéral du Québec. Et si la tendance se maintient, ce serait Pablo qui dirigerait le Parti libéral du Québec.
Pas de surprise là.
Pablo Rodriguez.
Ouais. Ouais.
Moi, ça me surprend parce que Pablo Rodriguez, il n'y a pas grand monde qui sait c'est qui, honnêtement.
C'est juste le petit boss du nouveau.
Grand monde. Mais c'est parce que nous, on est là-dedans depuis toujours, là, dans l'actualité. Okay.
Oui.
Fait que le pouls, mettons, chez les gens au fédéral, il est moins.
Je parlais avec Guy Nantel hier, puis on parlait de ces fameux de Vox Pop.
Oui.
T'sais, tu passes un Vox Pop à la Guy Nantel, là, juste à l'entrée du building ici, puis tu demandes qui est Pablo Rodriguez.
Ouais, mais là, ils savent pas c'est qui le premier ministre.
D'après
du Québec,
moi, il y a des gens qui vont dire
vivre.
Il fabrique du café, lui.
Bien, il y a personne qui sait à Québec c'est qui l'opposition à la ville de Québec.
Ouais. Ou le maire même, des fois. Là.
Prenons pour acquis que Pablo Rodriguez, ça veut rien dire pour personne. À partir du moment où c'est un, pas Denis Coderre, et deux, quelqu'un de nouveau qui a de l'air bien smart, il y a un petit buzz, là. Puis tu le vois d'un chiffre. Maintenant, comment tu fais durer ce buzz-là? Puis moi, ça me montre une fragilité globale. T'sais, l'avance d'un Paul Saint-Pierre Plamondon, par exemple, dans les sondages, tu vois que ça repose sur pas grand-chose. Encore une fois, c'est le phénomène du nouveau, c'est une forme de désaveu envers le gouvernement, mais c'est une belle opportunité pour les gens qui ont le goût de faire de la vraie politique, par exemple, parce qu'il y a du vote à prendre. Regarde comment ça se promène, puis regarde comment ça prend pas grand-chose pour que ça se promène aussi. T'sais.
Donc, Pablo Rodriguez, ce serait le préféré à 30%. Denis Coderre est rendu à 14%. C'est une grande chute pour lui.
Ouais.
Marc Bélanger, qui est très connu dans sa famille, mais dans sa rue, on le connaît peut-être un peu moins, est à 6%. Charles Milliard, que moi j'aime bien, que je trouvais que c'est un candidat potentiel pour le Parti libéral du Québec, parce que si tu vas aller chercher... C'est pas que Pablo Rodriguez, là, que tu vas aller chercher les contrées lointaines. Là. Tu comprends?
Oui, oui, absolument.
Ça te prenait un gars du peuple, moi, pour avoir pas mal lu sur Charles Milliard, puis avoir jasé avec des gens qui l'ont côtoyé, dont le fils de Jean Charest.
Ouais.
Lui aussi disait que Charles Milliard, c'était un des très, très bons candidats. Il score seulement à 5%.
Écoute. Je me trompe peut-être. Moi, j'ai l'impression, puis je sais qu'ils sont tannés de ça, mais je vois Pablo Rodriguez comme un genre de chef de transition.
Ouais.
Puis je vois que c'est sa job à lui de dire, OK, le prochain, il est où, là? C'est-tu Milliard le prochain? C'est-tu Coderre le prochain? Je le pogne, je le monte beaucoup, j'y donne beaucoup de dossiers, je lui donne le devant de la scène, puis je le prépare pour qu'il soit quelqu'un de qualité, puis pour que les gens le connaissent quand va venir son tour, quand va venir le temps de l'élire comme chef.
Et que le parti soit prêt.
Je bâtis sa renommée, dans le fond.
Ça a toujours été l'analyse que j'ai eu dans les derniers mois, ça a été le prochain s'en va au resclage après. Mmh. Faut que t'acceptes qu'il y aura une défaite face à ta personne.
Un parti, c'est comme une équipe de hockey, là.
Oui.
Il y a des phases de reconstruction.
Et en ce moment, il sera pas facile. Mmh. Fait que sur le Parti libéral, c'est vraiment quelqu'un qui va, aller, entre parenthèses, mourir avec la dernière phase du Parti libéral. Puis, tu vas avoir perdu une Marois Risky pour les prochaines élections. Il va falloir que tu te reconstruises l'intérieur. Puis là, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui connaît bien la politique, qui connaît bien les transports, qui a beaucoup d'enjeux de transport ici au provincial, qui va peut-être être capable de farfouiller à l'intérieur de tout ça. C'est intéressant. Je sais pas si c'est mon candidat, mais je trouve ça intéressant, les candidats quand même qui sont présentés.
Le son de cloche le plus clair, parce que ce qui est dur à avoir en politique, c'est de la renommé. Mais un coup que tu l'as, il faut que tu vives avec. Le chiffre le plus clair dans ce sondage-là, c'est que Denis Coderre, ça passe pas.
Non.
Denis Coderre, tout le monde le connaît.
Mais
normalement,
il est où en ce moment? Honnêtement, là...
À Compostelle, je pense.
On risque de l'avoir ici. On croise les doigts, là. Okay? Ouais. Mais ça fait des semaines qu'on travaille pour y parler. Puis je trouve qu'il parle pas beaucoup. Tu peux pas surfer sur ton nom ou ce que tu as fait auparavant.
Je l'ai trouvé très malhabile et très émotif dans des entrevues à Montréal.
À Cube, oui.
Du côté de Cube, je pense que c'est pas pour rien présentement qu'il limite les entrevues. C'est pas un gars qui est en contrôle de son message et de sa personnalité.
Tu peux pas prétendre être capable de gérer le Québec quand t'es pas capable de gérer tes propres finances. Là.
C'est un peu le problème.
Il aurait dû y penser avant. Je vais régler mes affaires, puis après ça, je vais annoncer que je veux me présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je trouve qu'il a fait les affaires un peu à l'envers.
On peut être cordonnier mal chaussé. Mettons un psychologue qui a lui-même besoin d'aller voir le psy, ça arrive à tous les jours.
Mais tu donnerais-tu ton argent, toi, à Denis Coderre actuellement, pour qu'il gère?
Moi, pose la question. Est-ce qu'on peut pardonner, mettons, qu'au personnel, tu sois moins bon?
Puis là, te dire parce que tu te concentres sur ta tâche professionnelle.
J'espère que mon conseiller financier se doit pas le cul, personnellement.
Parce qu'il va aller piger dans le tien.
Ouais, j'espère sincèrement.
Mais c'est ça. T'sais, Pablo Rodriguez, oui, là, pour quelques années, mais ils sortiront pas de Montréal avec ce chef-là. Ça va te prendre un gars people. Puis ouais. Pablo Rodriguez, il est plus connu à Montréal qu'à Québec.
C'est vrai.
Puis si tu vas au Saguenay ou si tu vas en Beauce ou si tu vas peut-être, en Gaspésie, il n'y a personne qui connaît ce gars-là.
Mais il y a tellement de place pour des gens qui voudraient, mettons, faire du chemin avec des idées politiques, des valeurs politiques. Tu te présentes sur n'importe quelle étiquette présentement. Tu as un peu de bagou. Tu veux prendre la place dans ton milieu. Tu sais, tu parles du Saguenay, on peut parler de la région de Québec. Il y a plein de micros qui attendent rien. Que ça, là, des idées, du monde, des valeurs, quelque chose. Moi, je vois des portes grandes ouvertes. Là. T'sais, l'électorat, il est volatile, il est désintéressé, il y a quelque chose de nouveau, on se colle un petit peu là-dessus, puis après ça, on s'en va. T'sais, Pablo Rodriguez, y es-tu connu? Non. Il y a plein de belles opportunités de se faire connaître.
Charles Milliard, pas connu non
Même
plus.
Même chose.
Denis Coderre, connu, mais ça paye pas.
Les gens qui sont les politiciens de demain, et ça va en prendre. Venez nous sortir de la marde, venez nous aider, il y a de la place, on veut vous connaître.
Puis souvent, on peut voir ce que le titreur pense des différents chefs de parti par les images qu'ils choisissent, OK? Regarde l'image qu'ils ont pris pour François Legault. La question était posée, si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? C'est PSPP qui est à 32%, François Legault est à 24%, mais la photo qu'ils ont prise, écoute, il y a le regard vide,
il y a la
bouche ouverte.
Il y a la face d'un gars de la Beauce qui a vu un trans pour la première fois.
Il n'y avait pas d'autres exemples dans tes poches.
Écoute, je vais en images. Hein, je fais de la radio, je fais des images. Il y a ce face-là.
Puis mettons qu'il voyait le gars qui a décidé de s'implanter dans une vache, ça peut-tu être ça?
Ah, okay.
À Saint-Simon-des-Mines.
Tu veux y aller plus simple que ça?
Ouais.
Tu veux pas aller jouer dans la controverse?
Vas-y.
Il y a la face que j'avais hier quand j'ai vu que les arbitres ne collaient pas encore les punitions pour les Panthers de la Floride.
Vous vous êtes fait rincer.
Hey, ça va faire, là, le chouchoutage de la Floride dans la Ligue nationale
de hockey. Ton gardien qui charge trop cher était sur le banc.
Les gars,
Il voulait gauler, ils l'ont pas laissé faire.
Ouais, c'est ça. Mais bref,
il va rosser le Canadien demain.
Si vous avez une image à regarder aujourd'hui, c'est dans le Journal de Québec, regardez le sondage qui a été réalisé et la photo qu'ils ont prise de François Legault. Tu comprends que pour Québécois, François Legault, c'est pas le prochain candidat.
Il voit le train arriver.
Dites-nous au 88-971-1021, vous pensez qu'il a vu quoi?
Exactement.
Merci, Denis.
Au Guéléo, merci, Denis.
Salut, là.
On fait une courte pause, vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, on revient. 102-1.